Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour.
Je vous demande pardon.
Est-ce que vous l'aimez?
Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Bonjour Clara.
Bonjour Fleur et bienvenue dans Rom Comment, le podcast qui t'explique comment mais comment sont construites tes rom-com préférées. Mes très chers rom-com zouz, le jour est enfin arrivé où, ça y est,
nous sommes dans la même pièce. Nous avons réussi.
Nous nous sommes retrouvés et en cette chaude journée pour vous offrir non pas un mais deux épisodes en présentiel. Donc l'épisode du mois prochain sera aussi d'aussi bonne qualité, toujours de la merde, hein, mais mieux que quand on est à distance.
À distance, clairement.
Pour vos petites oreilles, nous nous sommes donc réunis pour parler d'un film qui a divisé l'équipe de Rome Comment.
Voilà, aujourd'hui c'est moi je suis dans une position un peu compliquée aujourd'hui, je l'avoue, parce que c'est moi qui ai dit à Clara oh mais ce film il est super, vas-y tu l'as jamais vu, on va le faire, tu vas voir et tout. Voilà, ça n'a pas fonctionné.
Écoutez, des fois il y a des flops et des fois il y a des tops, et là clairement pour moi c'est un non.
Et alors que personnellement en le revoyant je me suis dit putain il est vraiment super bien, donc nous allons pouvoir discuter. Mais je sens qu'en fait dans le fond on va être d'accord. Mais
je pense qu'on est d'accord sur la même chose. Ce film c'est 27 robes, donc aujourd'hui nous allons parler du trope de comment tu avais si bien appelé ça,
de la troisième roue du carrosse.
J'adore, un voilà. Trope que nous avons tous vécu
très probablement. Pour la petite rappel, si vous avez oublié, un trope, c'est un schéma narratif récurrent dans la fiction.
J'adore. Moi, j'adore les schémas narratifs récurrents dans la fiction.
C'est ma passion.
Est-ce que tu peux un peu nous parler de 27 robes, du coup ?
Oui, bien sûr. 27 robes, c'est un film qui est sorti en 2008, qui est réalisé par Anne Fletcher. Dedans, il y a Catherine Hegel.
Hegel ?
Hegel,
je sais pas.
Pour moi, Hegel, c'est le, je crois que c'est le philosophe.
On l'a
hypé, tu sais. Bon, donc Catherine Hegel et James Marsden.
James Marsden, c'est si, voilà. J'adore Hersprey.
Oui, c'est vrai, il est dedans, j'adore.
Eh bien,
Anne Fletcher, elle a bossé pour Hairspray.
Incroyable.
Voilà, parce qu'elle faisait aussi des chorégraphies, visiblement. Elle était genre directrice, enfin réalisatrice et chorégraphe.
D'accord.
Enfin, de ce que j'ai compris d'après la page Wikipédia. J'espère que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Donc, film sorti en 2008, 30 millions de budget, 160 millions au box-office.
Ah, c'est un succès.
Donc, plutôt un succès. Et d'ailleurs, à l'époque, donc l'actrice Catherine, je vais arrêter d'essayer de dire son nom de famille.
On voilà, l'appelle Kat.
Elle était un peu dans toutes, je sais pas si souviens, mais c'est l'époque, elle était dans beaucoup de rom-com.
Oui, elle est dans une rom-com dont je me souviens plus le nom, qui est d'ailleurs une espèce de romance lesbienne très ratée.
Oui, ah mais celui-là il est sorti plus tard, je crois. Oui, Jenny's Wedding.
Oui, mais il est, enfin
non,
bon,
ouais,
ne regardez pas ce
non
film.
Oui, ça c'est quand t'écumes c'est quand t'écumes les fonds de Netflix parce que t'es désespérée.
Une rom-com.
Non, mais elle avait fait, à l'époque elle faisait beaucoup, elle avait fait une qui s'appelait L'Abominable Vérité avec Gérard Butler.
Ouais. Bah bon, hein.
Des dark moments de voilà. Mais donc toi, est-ce que tu veux nous raconter l'histoire?
Alors l'histoire de 27 robes, en gros c'est l'histoire de Jane, qui est donc une éternelle demoiselle d'honneur au mariage de ses amis et même au mariage de sa famille, et en fait elle va devoir organiser le mariage de sa sœur qui est tombée amoureuse de son boss, de qui elle-même est amoureuse, donc ça va être un petit peu des micmacs comme ça. Aussi dans le lot, il y a James Marsden qui est un écrivain, enfin un auteur de journal qui écrit sur les mariages alors que c'est un job qui n'existe pas, mais nous sommes dans une rom-com où tout est possible. Il y a également un Bouvier bernois, ce que moi personnellement j'ai trouvé était le point fort de ce film. Il y a un très beau chien,
le personnage préféré de Clara dans l'histoire,
il est superbe. Je vais donc en profiter pour donner mon avis sur 27 robes. J'ai pas du tout aimé 27 robes, mais d'abord j'aimerais faire un disclaimer pour dire que c'est, ça date de 2005, c'est ça,
2008.
Mais... ah putain, et bah c'est plus récent que ce que je pensais. Bon, ça date des années 2000, même si c'est la fin. Et du coup, ce que je lui reproche, ce sont des choses que je pourrais reprocher à des rom-coms que j'aime, qui sont de cette époque-là. Mais je n'ai pas l'attachement, en fait, du tout de l'enfance à ce film, puisque je ne l'ai jamais vu avant de le voir hier pour le podcast. Et donc, ce que je lui reproche, c'est que je le trouve très sexiste, très archaïque, très manichéen. Je trouve que les hommes sont globalement des gros connards, mais on finit par leur pardonner, et je trouve ça un peu relou. Également, je trouve que la femme est vraiment représentée sous trois angles que je déteste, c'est-à-dire... Jane, sa sœur et sa meilleure amie sont vraiment trois archétypes de la femme qui, moi, m'ont révoltée. Je l'ai vu avec mon coloc dans la pièce à côté qui, lui-même, était là, t'as vu, c'est pas bien. J'étais genre, mais oui. Et donc, si un homme peut s'en rendre compte, c'est vous dire, parce que, oh là là, je suis embrassée de rien, je t'aime. Mais voilà, non, c'est un non pour moi. Après... Il y a quelques jolis trucs de rom-com dans le sens où il y a des montages qui marchent bien, tu vois, quand ils traînent ensemble tous les deux sur une musique et tout. Bon, bah, on kiffe, hein, mais voilà, pour moi, c'est un non.
Eh ben, pour moi, c'est un oui. Non, mais en fait, alors, moi, je m'explique. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vient de dire Clara. Mais la différence, c'est que tu viens de dire, moi, je l'ai vu, en fait, en 2008. Oui. D'ailleurs, Lucie, ma cousine, si elle passe par là, était celle qui me l'avait conseillé parce que je commençais à avoir des rom-coms, mais j'étais jeune, elle est plus âgée que moi. Et elle m'avait dit, ah, moi, celle que j'ai vue récemment au cinéma, c'est 27 robes, elle est grave cool et tout. Donc, c'est comme ça que je l'avais ensuite regardée avec probablement ma meilleure pote avec qui on faisait des pyjama parties. Bref, je sais qu'on peut reprocher plein de choses à cette rom-com, mais pour moi, c'est exactement ce qu'on pourrait reprocher. Bah, attention, ne me tue pas, mais genre à Love Actually.
Ah, je suis moins d'accord quand même.
Bah, par exemple, moi je trouve le traitement des personnages féminins, par exemple, bah, écoutez notre épisode sur Love Actually.
Pas tous les personnages féminins, dans le sens où là, 27 robes, moi il n'y a aucune femme qui trouve grâce à mes yeux, tu vois.
Bah, bon.
C'est un avis.
Ne refaisons pas Love Actually ici, mais voilà. Mais pour moi, c'est pareil dans 30 ans sinon rien. Oui, c'est pareil. En fait, c'est dans beaucoup de rom-com de l'époque, c'est comme ça, mais du coup, moi j'ai un espèce de attachement nostalgique, mais avec du recul, il y a plein de choses que j'aime pas, mais je trouve quand même, et peut-être que là on sera pas d'accord, c'est un film, en fait c'est une rom-com qui a énormément de tropes, mais là on a tout,
non, beaucoup.
Et les journalistes, et la meilleure amie, et la rivalité avec la sœur, et le boss dont on est amoureux, toutes mes notes, il y a marqué trop souligné partout, et pour moi le film quand même arrive à marcher en prenant tous ses codes. Ça pourrait être mille fois plus cliché que ce que le produit finit par être, qui est cliché mais qui pour moi fonctionne. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà, mais nous allons plonger en détail dans le film et voir du coup nos points de d'accord et de désaccord.
Pour l'instant, c'est le Bouvier Bernois.
Jane, c'est superbe, c'est vraiment la robe parfaite. Quelle merveille. Vous êtes magnifique.
Notre scène du début est dans une église. Donc déjà, j'aimerais vous rappeler à tous que nous sommes sous le joug de Dieu. Non, en fait, cette scène de début m'a mis terriblement mal à l'aise parce que, c'est très années 2000. C'est une église où tout le monde est habillé comme dans un clip de Christina Aguilera. Donc c'est très difficile. Donc on rencontre Jane avec une voix off. Donc vraiment, tu peux cocher trop dès le début puisque la voix off qui raconte ce que la protagoniste est en train de vivre.
Très rom-com.
Très rom-com. Et elle se compare à Picasso et Mozart. Donc moi j'étais là, ok. Alors on commence avec une meuf mégalo.
Non, justice pour Jane. Elle dit les gens genre Picasso et Mozart ont découvert leur c'est quoi leur
vocation.
Voilà, leur vocation. Et elle a dit j'ai découvert la super jeune et moi aussi j'ai découvert la mienne super jeune. Je sais pas si elle a dit qu'elle était la Picasso des mariages. Même si moi je pense que c'est un titre qu'elle pourrait mériter. Je vous rappelle que le film s'appelle 27 robes parce qu'elle a été 27 fois, genre même pas demoiselle d'honneur, mais organisatrice de mariage.
Ouais,
je comprends pas pourquoi, même pas pourquoi c'est pas son métier d'ailleurs.
En France, ça existe pas, genre la maid of honor. Et en fait, en Amérique, il y a deux choses distinctes. Il y a maid of honor et il y a bridesmaids. Et en gros, la maid of honor, c'est la demoiselle d'honneur d'honneur. Genre, c'est celle qui gère toutes les autres et qui aide. C'est genre Monica pour le mariage de Rachel, par exemple. Qui aide les autres demoiselles d'honneur et à organiser le mariage.
C'est un peu genre le témoin.
Ouais, mais non,
en
parce
France,
que le témoin,
un témoin,
c'est légal.
Oui, et surtout, les témoins, t'es pas censé. Enfin, ça veut pas dire que t'organises.
Non, du tout. Donc, ça n'existe pas, c'est très américain. Mais en tout cas, elle n'est pas seulement bridesmaid, du coup, elle est vraiment maid of honor à chaque mariage.
Et donc, ça, elle a découvert sa vocation. Donc, en effet, quand elle a 8 ans. Et moi, je trouve quand même que cette scène d'ouverture est intéressante parce que ça rentre directement dans notre trope qui est la troisième roue du carrosse.
Ça
parce que
bien.
Tu comprends, en fait, que donc, elle est à un mariage avec son père et sa petite sœur. Et en fait, la mère. Encore une fois, allez hop, un petit drame. La mère est décédée.
C'est ce qu'on appelle le trope Bambi.
Voilà, exactement. Et du coup, tu vois qu'en fait, c'est elle qui s'occupe déjà de sa petite sœur, c'est elle qui s'occupe de tout le monde. Et même déjà, quand c'est une enfant, elle est. Enfin, voilà, elle a le rôle de cette espèce de troisième roue qui doit aider tout le monde.
Ouais, non, c'est vrai, mais par contre, je reconnais en qualité de 27 robes qu'elle fonctionne parfaitement avec ce trope-là. On en discutera plus grandement à la fin, mais ça fonctionne très bien. Donc elle trouve sa vocation, pourquoi? Parce qu'en fait elle est on appelle ça flower girl en anglais, mais c'est les petites demoiselles d'honneur, généralement des enfants qui passent avant la mariée. Et en fait elle répare la robe de mariée de sa cousine avec le nœud qu'il y avait dans les cheveux de sa sœur.
Voilà. Oui, en fait en gros elle save the day. Voilà. Et elle est là aider les gens dans leur jour leur plus important. c'est le mieux, c'est le meilleur truc. Et du coup là ça coupe, il y a un petit saut un bond temporel et on arrive dans un nouveau mariage où elle est en effet encore
demoiselle d'honneur.
Voilà. Non, avant ça, je crois que ça saute dans elle essaie une robe de mariée, tu comprends que oui, c'est pas pour elle, que c'est pour la mariée.
Donc la pire troisième roue déjà.
Voilà.
Essayer une robe de mariée qui n'est pas pour toi.
Voilà. Et c'est le petit truc rigolo où du coup tu la vois essayer une robe et tu te dis ah, et elle c'est son plus beau jour aussi. Et en fait non, c'est pas elle, c'est pour une autre. Et on arrive sur du coup la deuxième scène qui vraiment présente le personnage de Jane, qui est elle est donc la demoiselle d'honneur pour deux mariages le même jour.
Mais deux mariages, deux salles, deux ambiances, hein, puisqu'il y a un mariage avec une robe affreuse de demoiselle d'honneur. Mais je suis contente parce que c'est pas année 2000 dans le sens où la robe est affreuse pour nous, mais elle l'est pour elle aussi. Tout le monde la trouve moche, alors que généralement dans les années 2000, quand les gens disent ah, t'es trop bien habillée, nous on est là, non. Et ensuite, le deuxième mariage, c'est un mariage judéo-indien, je crois. Ouais, donc, avec des jolis saris.
Saris, oui. Ce qui je trouve très rigolo, parce qu'un sari, c'est très très compliqué à mettre, parce que genre, il faut entourer et tout. Et en fait, donc pour la faire courte, de toute façon, j'espère que vous avez déjà vu le film, sinon.
Alors là, cassez-vous.
En fait, elle va assister aux deux mariages dans la même soirée. Et du coup, elle va se changer d'une soirée, enfin, dans un taxi. Et franchement, non, mais mettre un sari en plus, je suis désolée, mais elle est de toute évidence pas indienne. Je pense qu'elle ne sait pas mettre un sari de base.
Elle a dû poncer les tutos YouTube.
Grave, grave. Bon, ça se voit que c'est un peu une contrôle fric, donc à mon avis, elle a appris à le faire.
Oui, sans doute, non, en septembre.
Petit point astrologie.
Donc, on devait y arriver, on s'est retrouvés. Moi, j'ai trouvé que, du coup, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle paye un chauffeur de taxi pour l'avoir toute la soirée. J'ai trouvé, premier point lourd. De 27 robes, c'est que le chauffeur, la petite veine du chauffeur qui la regarde se dessaper alors qu'elle lui a dit 30 fois non, arrive plusieurs fois, si bien qu'elle lui dit 200 balles, je crois, et en fait, à chaque fois qu'elle la regarde, elle enlève 10 balles et à la fin, elle lui donne 150 et elle lui fait bah voilà, tu sais ce que t'as fait, mon gars. J'étais genre bah en fait, non, enfin c'est du voyeurisme, arrêtez de fantabuler ça, de rendre ça romantique et tout, genre non!
Oui, non, oui, clairement, Clara a raison. Moi, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est pas forcément la scène du taxi, c'est la scène en miroir où tu vois les deux mariages.
Ouais.
Et en fait, ce que tu vois, c'est que vraiment, les mariages, c'est exactement la même chose, c'est toujours les mêmes moments. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que un personnage, le protagoniste masculin, le love interest qu'on va rencontrer, reproche au mariage, Kevin Doyle. Voilà, on va avoir donc dans cette scène donc ce personnage qui est présenté, donc Kevin Doyle à l'époque, enfin à ce moment-là du film, on ne sait pas d'où il est là. Mais on a le meet cute, la trope du meet cute où elle le rencontre après un accident, parce que évidemment on est dans une rom-com, donc l'héroïne n'a pas de chance et est un peu maladroite mais genre en fait elle se fait à moitié marcher dessus par une meuf qui va attraper le bouquet, quoi.
Clairement, vraiment c'est du catch, genre la meuf elle la met à terre et tout, et donc Kevin s'occupe d'elle et lui dit ah mais c'est marrant parce que tu disparais un peu tout le temps et tout, elle est genre laissez-moi rentrer chez moi. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage ce truc de quotidien d'être demoiselle d'honneur, que ce soit tourné aussi négativement dans la bouche de Kevin notamment, et puis de beaucoup d'autres personnes après, on lui dit non mais t'inquiète pas, toi aussi tu trouveras le bon, parce qu'en vrai être demoiselle d'honneur à 27 mariages, ça veut dire que t'as 27 potes qui t'aiment assez pour être demoiselle d'honneur.
C'est vrai, mais après moi je me demande si le propos du film aussi par moment c'est pas que elle se met dans ces situations aussi où ses potes savent que genre elle est douée pour ça et, elle sait pas dire non, on va le voir après, en fait elle en prend trop sur ses épaules. Mais à ce moment là on ne sait pas tout ça, mais on voit bien qu'en fait elle est extrêmement romantique, et le personnage masculin Kevin n'y croit pas du tout, et c'est le classique trope aussi des rom-com, le cynique, la romantique, waouh, choquant, on l'avait jamais vu venir. Mais je suis désolée, je trouve que ça marche, je trouve que franchement des dialogues pour une rom-com, ils sont genre piquants, ils sont rigolos, enfin tu vois, ils s'envoient des piques. Alors oui, le propos du dialogue est peut-être genre pas toujours ouf, mais je trouve qu'ils marchent bien entre eux.
C'est noté. Écoutez, on n'est pas d'accord, qu'est-ce que je voulais que vous
disiez. Voilà, là on enchaîne sur des nouveaux tropes, ça on est tous d'accord pour dire que c'est... on en a marre de voir ça dans des rom-com. Trope 2, elle oublie quelque chose derrière elle qu'on va utiliser pour la récupérer, et elle rentre dans un appartement
gigantesque, qui d'ailleurs après va être qualifié de petit. J'étais genre, ah, écoutez bien, écoutez-moi bien. À New York, c'est pas petit.
Oui, il est immense son truc, enfin genre.
Donc elle oublie son filofax, lol, dans le taxi. Oh là là, quelle coïncidence, c'est Kevin qui va le récupérer. Ah, Kevin est journaliste aussi.
Ah, mais bien sûr. Les amis, nous sommes dans une rom-com, vous croyez quoi.
Je crois que.
Alerte trop qu'on a dit.
Non, mais vraiment, on sait, moi j'ai écrit, on sait qu'ils vont tomber amoureux.
Bah, déjà, quand il est arrivé, si tu veux, il la sauve, il est brun aux yeux bleus. À partir de là, normalement, quand t'es dans les années 2000, ouais, dans une rom-com, tu sais que c'est lui. Hein.
Il a un peu la coupe de cheveux de Mark Ruffalo dans 30 ans sinon rien.
De ouf!
Je trouve que c'est un peu le même. Bon, c'est pas du tout le même personnage, oui, mais genre, c'est le même type d'homme.
Oui, 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 oui. Bah, il va, on va le voir plus tard, mais il y a encore une trope de. On va comprendre très vite pourquoi il est cynique avec une trope qu'on a vue 1500 fois.
1500 fois, hein. Donc, quand elle rentre chez elle, on découvre son placard de robes de demoiselle d'honneur. Il y en a donc 27 si vous avez suivi le début de ce podcast. Et on enchaîne ensuite avec le fait que Kevin est donc. Au départ, il dit I'm a writer. Mmh. Et en anglais, ça peut être écrivain comme journaliste. Et je me suis dit, putain, il est écrivain, mais ça va être encore une histoire de Jasper, la misère, comme dans The Holiday. Et non, il est auteur pour un journal. Et qu'est-ce qu'il écrit, Flore ?
Il écrit les colonnes, les wedding columns, genre les articles sur les mariages. Et qui, je pense, se fait aux États-Unis, oui, sincèrement, connaissant. Alors, oui, nous en France, qui voudrait lire ça, j'ai l'impression, mais.
Nous, il est obsèque en France, genre.
Voilà, bah, là, en fait, il fait juste. Des... Et surtout, c'est pas juste un matin, c'est pas juste que c'est un journaliste spécialisé des mariages. C'est que c'est le. Meilleur.
Ouais, c'est le best.
Et c'est lui qui fait tourner tout son journal, visiblement, grâce à ses. Et on l'a vu dans quelques scènes, c'est. Et ça, elle ne le sait pas encore, Jane, c'est son journaliste préféré, parce qu'en fait, elle garde certains de ses articles qu'elle trouve beaux.
Voilà, elle, de toute façon, le mariage, c'est sa passion, donc elle est genre. Voilà. Elle vit vraiment par procuration, en fait.
Tu vois, c'est pour ça que moi, je me dis que le fait qu'elle a été demoiselle d'honneur pour 27 personnes, c'est pas juste parce que c'est la meilleure pote de 27 personnes.
Mais c'est aussi parce qu'elle accepte de faire des choses que d'autres sacrifieraient pas et tout. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison.
Voilà.
Donc, on rencontre Georges ensuite au bureau de. Comment s'appelle-t-elle ? Jane, est aussi journaliste parce que
elle est secrétaire pour dans un journal. Enfin,
ouais, elle est assistante, je crois. Enfin,
c'est pas vraiment. En fait, moi, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait, George. Hein. C'est un peu une start-up son truc.
Non, en fait, c'est un journal pour les gens qui font du sport, c'est ça.
Ouais.
C'est genre un truc outdoors et tout.
Enfin, ouais, c'est genre il monte le Mont Everest ou je sais pas quoi. J'sais alors pas, là, attention, c'est pareil. On a 56 tropes à la seconde. Let's go. On re-rencontre. On l'avait déjà rencontré. Casey,
la meilleure amie vulgaire,
qui est jouée par la même meilleure amie que dans 30 ans sinon rien. Bisous, je crois qu'elle s'appelle Judy Greer, un truc comme ça, ou Green. Bisous à toi. Clairement, c'est censé être l'opposé de Jane. Elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle a pas peur de coucher avec des mecs après la soirée, blablabla.
Pour moi, c'est un personnage que je trouve irrévérencieux parce que je trouve que le montrer la femme célibataire, soit comme ça, soit comme Jane, c'est exactement ce que le film nous dit, c'est terrible parce que vraiment, elle arrive mal coiffée, elle rote, enfin, j'étais là-bas, écoutez, enfin, bon, quand même.
C'est vrai, mais je trouve qu'après, on le verra dans le film, elle a des bons moments et des bonnes qualités.
Elle a
mais
bons moments,
en effet,
mais...
c'est genre, on est là avec les gros sabots. Et énième gros sabot de rom-com, elle est amoureuse de son boss.
D'ailleurs, boss qui est genre vraiment a pasty white man. Je ne sais pas qui est cet acteur.
Je l'ai cherché parce que je ne connaissais pas. En plus, il s'appelle Edward Burns, un truc comme ça.
Je ne sais pas qui
c'est. Moi aussi.
Et c'est étonnant, je trouve que ce soit un mec pas connu qui joue ce rôle-là. Parce que, moi, j'aurais vu pas un Jude Law, mais genre.
Tu vois, bien aimé.
Comme ça.
Mais il sert. Non, mais. Il sert à rien. Enfin, Georges, le personnage de Georges, on va le voir, mais moi je le trouve détestable.
Ah non, mais il est insupportable.
Tu sais pas ce qu'elle lui trouve. Mais il a sa start-up et il a. Attends, c'est ton moment, place-le, le chien là.
Il a un chien, il a un bouvier bernois qui est magnifique. Et donc, comme on est dans une rom-com, forcément, bah, elle est amoureuse de son boss. Et en parallèle, Kevin annonce à sa boss à lui qu'il va écrire un article sur cette meuf dont il a retrouvé le filofax qui a fait 27 mariages parce qu'il trouve que ça change un peu des sujets qui sont sur les gens mariés. Là, il va faire un focus sur elle et sur ce que ça veut dire du mariage, du coup, genre l'industrie et tout, que ce que tu disais au début, genre c'est toujours la même chose.
Parce qu'en fait, voilà, il écrit pour du journal, mais en fait, lui, son rêve, c'est de casser le
mythe.
Le mythe du. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais il cite. Enfin, t'as sa boss qui dit ouais, tu voulais écrire sur ça et ça, et tout le monde s'en fout. Et moi, je t'aime, mais ça a l'air trop intéressant sur quoi il voulait écrire.
Je sais plus, mais c'est pareil, c'est des trucs genre sur.
Oui, sur l'exploitation des travailleurs qui font la dentelle, oui, sur les pâtisseries qui augmentent les prix pour les gâteaux de mariage. Mais moi, j'étais là. Moi, je lis cet article beaucoup plus qu'un article qui me raconte un mariage où j'étais pas. Enfin, genre, qu'est-ce que je
m'en... mais ça n'a aucun intérêt.
Les Américains.
On finit par rencontrer encore des gens parce qu'il y a beaucoup de personnages, je trouve, dans cette rom-com pour se concentrer. On rencontre Tess, du coup, la sœur de Jane.
Attention.
Qui rentre de Milano. Non,
Milano, nouveau. Là, c'est pas. Attends, mais là, vraiment, je vois maintenant, c'est marqué trop. Il y a marqué 4 fois trop sur une page. C'est assez commun dans les rom-com que l'héroïne soit. Enfin, mise en opposition avec une autre femme qui est censée représenter quelque chose que l'héroïne n'arrive pas à atteindre.
Ouais.
Et là, concrètement, c'est. Et la sœur, moi, ça me fait penser le film qui est pas tout à fait une rom-com, mais un peu In Her Shoes,
oui,
avec Cameron Diaz.
Oui,
où Tess, elle est blonde, elle est mannequin, elle est pétillante, elle est trop belle. Elle a l'air insupportable.
Détestable.
Mais paradoxalement, elles ont une bonne alchimie. Enfin, je trouve que c'est un
peu. Oui, parce que je pense que aussi, elles mettent ça sur le dos de. Enfin, la scénariste met ça sur le dos de la mère qui est morte.
Oui,
du
complètement.
Coup, la sororité. Enfin, tu vois, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. La sororité, ça n'a pas duré très longtemps.
Ouais,
hein,
ouais, clairement. Mais du coup, on rencontre Tess, qui, on comprend, va loger chez
sa sœur.
Et clairement prendre toute la place, voilà. Littéralement prendre une place prépondérante dans sa vie. On va le voir bientôt. Mais d'abord, on retourne sur Jane et un énième trope, le trope du quiproquo dans les rom-com. Elle pense qu'elle a reçu des fleurs
De son patron, donc de George, et en fait il se retrouve à la soirée, je crois, de la secrétaire du bureau, un truc comme ça, et en fait il lui dit t'as reçu ce que j'ai mis sur ton bureau ce matin, parce qu'on avait jamais eu ce genre d'interaction, donc bon, je voulais savoir si c'était ok. Elle est genre, oh mon gars, lui même et tout.
Cassé, ça,
Casey,
merci.
Cassé, comme dans Loin le Roi.
Elle lui dit, vas-y, genre, let's go et tout.
Ouais.
Elle s'approche et là, bah c'était trop tard en fait, parce que Tess débarque à la soirée.
Il y a sa sista qui arrive et qui fait, oh, mais il est mignon lui, si je le draguais parce que je suis la femme parfaite, donc forcément elle va tomber amoureuse de moi. Ça fonctionne.
Mais tu vois, par exemple, moi je trouve que c'est là que pour moi le film marche, le regard de Jane quand elle voit George et Tess se regarder. Pour moi, c'est comme dans The Holiday, Iris, elle a l'air tellement brisée. Enfin, moi cette scène me touche, tu vois. Et quand elle débarque, et c'est comme on dit le trope de la troisième roue du carrosse, là c'est. C'est genre douloureusement la troisième roue. Les deux sont en train de se parler, mais limite ils sont déjà en train de se rouler une pelle. Et Jane est là à côté en mode bonjour.
Moi, c'est ça mon problème avec ce film, c'est que je trouve que c'est pas du tout. Bah, alors, je sais, c'est une rom-com, mais moi j'y crois pas une seule seconde en fait à l'histoire d'amour entre.
Non, ça je suis assez d'accord. Moi je comprends pas parce que
moi, ça fonctionne
George
pas.
Est décrit ensuite comme un mec qui genre adore la outdoor, qui
le sport. Il est vegan.
Voilà. Et il rencontre Tess, elle arrive à la soirée, c'est une espèce de petite blonde hyper cliché dans une robe à paillettes, et il est là genre waouh, elle est trop, enfin genre ah ok, donc tous les mecs, enfin après non, moi je suis là ok, c'est peut-être crédible, tous les mecs sont nuls en fait.
on essaie pas de vous faire passer un message, mais enfin quand même. Et Jane apprend au détour de cette conversation que du coup c'est pas du tout les fleurs qu'il a laissées sur son bureau George, mais du linge. Donc j'étais là, quelle belle image de la femme qui doit donc être sa putain de daronne et emmener ses vêtements au pressing. Bref, ça, voilà. On apprendra plus tard que les fleurs sont de Kevin, en fait.
Oui, qui veut clairement rentrer en contact avec Jane.
Il veut pas que rentrer en contact, si vous voyez ce que je veux dire.
Bah en fait, lui, en gros, il débarque à la soirée pour rendre donc le filofax à Jane et lui dire je veux aller boire un verre. Elle lui dit non et surtout elle va chercher Tess qui est en train de discuter avec George et elle est en mode bon ben on rentre et Tess elle est là allons danser George et tout. Elle a l'air si nunuche, George il a les emojis cœur dans les yeux.
C'est le loup dans les Looney Tunes, genre.
Voilà. Et là en fait, c'est en cette scène ce que je trouve intéressant, c'est que du coup les deux vont danser et on pourrait dire bon bah du coup c'est plus la troisième roue du carrosse parce qu'elle se retrouve seule, mais même quand elle est seule, elle est encore la troisième roue parce qu'en fait elle rentre dans son appartement, elle est incapable de faire autre chose.
Ouais.
Que d'attendre sa sœur.
Du coup elle nettoie, j'ai trouvé ça très.
Voilà.
Moi,
elle était vraiment
stressée, je nettoie, je suis sûre qu'elle est vierge. Comme moi. Donc sa sœur finit par rentrer, on passe très vite sur l'histoire, mais en gros, elle est love to love de George et ils vont continuer à se voir pendant un peu de temps.
Et pour moi, chose intéressante à noter quand même, parce que Tess clairement est détestable, mais Tess quand même demande directement
à
sa sœur, ça te dérange? Et sa sœur répond, non, t'inquiète. Voilà. Après, bon, Tess est vraiment con parce que ça se voit, mais là t'as pas besoin d'être un psychologue pour voir que ça la dérange complètement.
Non. Mais on continue dans la tenue de chandelle en revanche, puisque alors là, Alors là, il y a l'arrivée d'un cliché, mon pote. J'étais là, mais ça manque de personnages racisés, ce film. Mais évidemment, ils m'ont servi Pedro sur un plateau d'argent comme ça. Pedro, c'est qui? Pedro, c'est un petit enfant des favelas, limite. Où en gros, il y a un espèce de programme dans la ville de New York, c'est le Big Brother truc, là, c'est aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Où en gros, t'as des adultes qui s'occupent de jeunes en statut de difficulté, sans doute de précarité. Quelle surprise, il est latino. Bon, on passera très vite sur ça. Et donc, George est l'espèce de white savior de Pedro et il l'emmène à ses matchs de baseball et il est comme un père pour lui. Mon Dieu, que ça le rend attachant. Non, je vomis dans mes doigts comme ça. Non, non, c'est pas possible. Bon, il l'emmène à un match de baseball. Et il emmène Jane. Moi, c'est vraiment, je me suis posé la question, pourquoi il lui propose de venir?
Mais en plus, cette scène est vraiment horrible pour Jane parce que elle a expliqué. En fait, Tess lui a dit, ah, George, il a l'air trop bien. Raconte-moi qui il est. Et du coup, elle lui a dit plein de fun facts sur George. Et Tess les ressort complètement. Et en fait, Tess, en fait, se raconte. En fait, c'est un peu la trope du catfish là, hein, l'histoire. Parce qu'en fait, elle dit, j'adore. C'est quand même une grande blonde nunuche. Et elle est là, ah non mais j'adore le sport, ah non mais je suis végétarienne, ah nana et tout. Et pareil, tu dis, mais comment George il voit pas à 3000, le mec est censé être brillantissime et le mec ne voit pas à 3000 km à enfin bref, bon.
Mais après,
c'est les hommes.
C'est un homme de 2008. Donc j'aimerais ensuite rappeler qu'il y a un petit montage à la suite auquel on découvre que vraiment son boss est un putain d'assisté, vraiment. C'est-à-dire que les femmes de sa vie le maternent, sont vraiment, enfin bon, pour moi c'est vraiment encore une fois l'objectification de la femme comme vraiment figure, je vais le redire, maternelle, mais bon ça c'est terrible. On skip un peu rapidement parce qu'il faut qu'on avance, ouais, et la love story on s'en bat les couilles.
Concrètement là on a une énième scène la scène de troisième roue du carrosse, mais la plus douloureuse.
Ça, par contre, vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Mais encore une fois, on n'y croit pas, ça fait 3 semaines qu'ils se connaissent.
Oui.
Tu vois ?
Clairement.
Mais bon.
Mais dans une rom-com, on y croit.
C'est bon, oui, en fait, je pardonne, c'est une rom-com. Ouais. Raconte-nous ce qui s'y passe.
Eh ben, non, mais aussi Jane, limite, c'est pas qu'elle a cherché là. Mais en fait, George oublie son téléphone au bureau et du coup, en bonne poire qu'elle est, elle décide de lui ramener. Elle regarde l'agenda de George, sa secrétaire, elle sait où il est. Et elle va au resto où il allait pour lui rendre le téléphone. Et en fait, quand elle arrive, il y a une grande banderole avec marqué veux-tu m'épouser ? George débarque, il fait ah non, les gars, c'est pas elle en fait. Replier la banderole.
Mais il dit un truc de ouf, il dit she's not the one en anglais, genre c'est pas la bonne.
Ouais.
C'est, et j'étais là, quoi, c'est dur.
Et là, elle est en mode qu'est-ce qui est en train de se passer ? Tess débarque en mode qu'est-ce qui se passe ? Jane, pourquoi t'es là ? Là, il la redemande en mariage. Et en fait, bon, long story short, George demande Tess en mariage devant Jane, qui est, rappelons-le, in love depuis des années. De George et qui en fait là son monde est en train de s'écrouler quoi.
Voilà, et ils se connaissent depuis 3 semaines avec Tess, mais bon, nous passons sur ce sujet. Bienvenue dans ASMR Rome, comment votre podcast où Clara chuchote parce qu'on en a marre. Donc maintenant la troisième roue du carrosse du mariage de sa sœur, parce qu'évidemment sa sœur lui demande d'être ça. Demoiselle d'honneur, d'honneur. J'ai écrit what the fuck is this movie about. Parce que franchement, plus on avançait, j'étais là, mais attends, ça va où? Où est-ce qu'on va, où est-ce
mais
qu'on
parce
va atterrir?
Qu'on n'a pas encore retrouvé Kevin qu'on retrouve très bientôt, puisqu'elle accepte finalement d'aller boire un verre avec lui, parce qu'en fait il lui avait laissé son numéro.
Petit
en disant si un jour t'as juste envie de faire
traîner
un truc.
Ça, il dit un truc bien, il dit si t'as envie de traîner quelqu'un qui t'emmènera pas faire du shopping pour son mariage.
Oui, et moi c'est quelque chose que je trouve bien dans ce film, et que bon, c'est encore une fois fait avec des gros sabots, mais en fait j'aime bien la relation de Jane et Kevin, et la relation de Jane et sa meilleure amie, parce que c'est des relations avec qui elle n'est pas la troisième roue, elle est en 1-1, et en fait quand elle est assise devant Kevin, il y a juste elle, et leur alchimie fonctionne pas trop mal, je trouve.
Après, moi, mon seul truc avec Kevin, c'est que il l'utilise pour son taf, et pour moi, c'est un énorme problème, mais ça viendra plus tard dans le film. Et par contre, avec sa meilleure amie, je suis assez d'accord. Toute la séance de yoga est à mourir de.
Oui.
Elle est vraiment bien, cette scène. On a oublié de dire, mais son père donne la robe de mariage de sa mère à sa sœur, alors que, comme c'est l'aînée, Jane, elle pensait l'avoir avant, et en fait, surtout, elle idolise.
Elle idolâtre
beaucoup le mariage de ses parents, en fait.
Non, mais surtout, c'est pareil, mais encore scène de l'enfer, où Tess a dit ça te dérange pas Jane, et Jane a dit non, mais là c'est pareil,
ferme ta gueule, genre.
Non, mais qui n'a pas compris que ça l'a dérangé, la meuf, mais sur son visage, moi limite elle est devant le juge, j'avais envie de pleurer pour elle, j'étais là mais c'est tellement horrible,
c'est pas possible,
surtout quand on sait ce qui va se passer après, restez accrochés. Mais du coup
ils organisent le mariage,
voilà,
en gros.
Et Tess décide en fait de faire un mariage mariage qui ressemble au mariage que les parents avaient eu.
Vraiment.
Donc pareil pour Jane, c'est
très
hyper dur. Voilà. Et là, on a la scène de la petite robe de la révélation. Où en fait, elle comprend, Jane comprend que son auteur préféré d'articles de mariage,
c'est Kevin, et qu'il va faire un sujet sur sa sœur. Enfin, il prétend venir faire un sujet sur sa sœur.
Mais en fait, c'est ça que j'ai pas compris, parce que moi, je me suis demandé si en fait, il l'avait, si c'est eux qui l'avaient appelé pour qu'il vienne faire le sujet, que c'est une coïncidence ou c'est lui qui s'est.
Moi, je pense que c'est lui qui s'est immiscé pour pouvoir faire son sujet sur Jane.
Oui,
apparemment, il veut toujours faire. Méga connard.
Non, mais.
Manipulateur de ouf.
Clairement. Mais on. Il va quand même avoir une petite évolution. Pas autant qu'on voudrait, il va quand même avoir une petite évolution. Donc là, pour Jane, là c'est vraiment le moment, ça commence à devenir compliqué sa vie parce que bah, y a pas grand chose qui va, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que même son auteur préféré, c'est genre l'espèce de vieux cynique. Et là elle se dit, il y a même une scène où ils discutent, elle fait ah, mais en fait, est-ce que t'es le mec qui fait semblant d'être romantique pour que les filles comme moi tombent dedans? Et elle est là, ah ouais, je crois.
c'est bon, bref. Ah, il y a un break dans mon écriture où j'ai écrit. C'est très raciste, le petit latino fait le ménage en chantant Shakira. Donc là, écoutez, c'est bien simple, j'avais envie de lancer l'appareil numérique par la fenêtre. C'est terrible. Non mais déjà.
Ah oui, mais dans le film, c'est peint comme détestable par contre. Hein,
Oui, non, c'est peint comme détestable, mais c'est très vite excusé parce qu'à la fin, pendant le rehearsal dinner, il va quand même dire merci de m'avoir donné cette opportunité pour faire du ménage chez vous.
C'est vrai, mais
le white saviorism dans ce film
mais
est
tout
détestable.
Oui, mais je suis d'accord, mais en même temps, je trouve quand même que dans le film, c'est pas du tout vu comme un bon truc, au contraire, quand il.
Non, pas du tout.
C'est en mode mais t'es, comment t'as fait ça, t'as abusé de ça. Bon, on y viendra après parce que d'abord, on a ma scène plus ou moins préférée qui est la scène de l'essayage des robes.
Ah oui.
Où en fait donc Kevin débarque dans l'appartement, enfin va chez Jane et dit je dois faire un interview de toi pour mon article sur ta sœur, sur son mariage. Et en fait il se rend compte qu'elle a un placard plein de robes et lui dit, et en fait de fil en aiguille elle se met à toutes les essayer et il prend tout en photo et c'est hyper rigolo. Et du coup ça rappelle tous les thèmes des mariages. Alors c'est à l'américaine, ça n'a aucun sens, c'est le mariage qui fait ça, mais bon voilà. Mais pour moi il y a un petit moment qui est intéressant, ils ont une alchimie, une bonne alchimie. Je trouve que c'est rigolo. Et en fait, le moment où elle commence à raconter un truc vulnérable sur elle, en fait, il la reprend en photo, il y a le flash et ça la coupe. Et c'est un peu, en fait, rappeler que lui, il est quand même là pour un article.
Ouais.
Et surtout, un article dont il lui a pas parlé.
Et
que le moment où elle essaie de s'ouvrir, en fait, elle se ferme. Parce que lui, il est hyper intrusif, en fait, il est pas...
Non, mais il est détestable. Et il lui dit un truc qui, moi, vraiment, j'étais là... Mais en fait, on se connaît pas. Il lui dit, tu préfères les souvenirs des autres que... Tu préfères garder les souvenirs des autres plutôt que de faire tes propres souvenirs. Et j'étais genre, mais en fait, on se connaît pas. D'où tu me fais une séance de thérapie, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de... En plus, ça va pas se mentir, c'est du mansplaining de ouf. Genre, je vais te dire comment tu te ressens. Et elle, elle va faire, ah, c'est vrai, je suis vulnérable.
J'avoue, mais dans la scène d'après, je sais pas si tu te souviens, il en prend pour son grade et il y a une petite vengeance parce qu'ils font du shopping pour la liste de cadeaux de
mariage. Ouais, ça existe pas en France non plus.
Ouais, pareil, vraiment, les Américains très étranges à la confusion de ce podcast.
Pourquoi on fait ça?
Et là, attention, ils se cherchent tous les deux, c'est un peu qui aime bien châtie bien, même si on déteste cette expression ici. Et en gros, elle lui dit mais comment ça se fait que tu sois genre si cynique en amour, c'est quoi l'histoire? Genre t'as eu ton mariage parfait, après c'est barré. Et je fais ouais.
Ah, mais encore une fois, j'ai trouvé que c'était vraiment, j'ai écrit en capital. Ah, donc sa meuf l'a largué, donc c'est un connard, MDR. C'est encore une fois, c'est une excuse de merde. Enfin.
Bien sûr, je suis d'accord, mais ça, je veux dire, ça c'est le même trope que Darcy.
Oui,
hein.
Mais vraiment.
Ça c'est un trope. Et alors moi, ma question c'est, vous connaissez combien de gens d'où leur femme les a trompés avec leur colocataire de l'université? Parce que dans les rom-coms, c'est non-stop, en fait. En fait, dans les rom-coms, c'est tu te fais tromper, mais pas juste on te trompe avec un inconnu, on te trompe avec la personne qui compte le plus pour toi sur Terre aussi.
Non, mais évidemment. Mais après, je trouve que Darcy, c'est différent, dans le sens où il n'est pas manipulateur. Enfin, tu vois.
Oui, non, mais...
C'est très différent. Moi, j'adore Marc Darcy.
Oui.
J'adore les Bouviers Bernois et Marc Darcy.
Non, mais je veux pas comparer Marc Darcy à Kevin Doyle, clairement,
il n'y a pas photo.
Mais c'est un peu. Oui, il s'est rendu compte que tout ça c'était fake. Et plus, je pense quand même que le fait qu'il est journaliste de mariage et qu'il voit à quel point c'est fake ces trucs, ça l'a pas aidé, je pense.
Non, ça c'est vrai. Du coup, elle en a ras le cul, j'ai écrit. Elle en a ras le cul et. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire à Tess. Elle allait dire à George que Tess c'était une connasse.
Mais en fait c'est la scène où après elle est en train de manger avec George parce qu'il goûte le, parce qu'on a oublié de préciser, mais ils se marient dans 3 semaines, ils se connaissent depuis 3 semaines, ils se marient dans 3 semaines
parce qu'il y a
eu une ouverture. Et en fait, là, c'est un moment où il se passe un peu plein de trucs. En fait, pour moi, c'est le moment du film que j'ai appelé genre occasion ratée. Parce que Kevin, lui, se rend compte qu'il commence à bien aimer Jane et qu'en fait, il veut pas faire l'article dans son dos. Il se pointe au dîner où elle est avec George pour lui parler. Il la voit. Là, il se rend compte qu'en fait, elle est amoureuse de George. Et du coup, il est là. Et donc lui tout s'écoule, mais enfin ça justifie en rien ce qu'il va faire à suite, mais bon voilà. Et en même et donc il ne dit rien et Jane en même temps elle est devant George, elle lui dit Tess et elle le dit pas non plus. C'est deux moments où en fait s'ils avaient juste été des adultes honnêtes qui avaient peut-être fait une thérapie avant, qui avaient réglé leurs problèmes, peut-être qu'on n'en serait pas là.
Ensuite on a toute une séquence qui est très longue. Je me suis vraiment un peu ennuyée. Alors déjà le film est vachement long, je trouve.
Oui. Rom-com, non, je suis d'accord.
1h50. Bon, on a fait des films beaucoup plus longs, mais qui s'intègrent moins peut-être dans le cliché de la rom-com.
Pour l'époque, c'est long.
Ouais, je trouve ça très long. Et du coup là, il y a toute une séquence où en fait ils repartent en voiture avec Kevin et il pleut, donc ça monte en tension parce qu'ils s'engueule parce qu'il lui dit mais toi t'es amoureuse de ton boss, nanana. Ils font de l'aquaplaning parce qu'ils sont pas prudents sur la route et qu'ils sont pas à 110 parce que l'autoroute quand il pleut c'est 110 et ils finissent dans un espèce de, parce que la voiture s'emboutit dans un arbre et ils finissent dans un bar de routier en gros où ils se mettent à discuter de la vie, nanana. Elle lui pardonne à moitié de l'avoir psychanalysé dans la voiture et en fait toute cette scène est très longue mais il y a du Elton John. Ils finissent par chanter Benny in the Jets et moi j'étais là oh, deuxième bon point.
Moi j'allais dire que pour moi c'est une scène genre, je suis assez d'accord qu'elle est longue et qu'elle est très cliché, mais c'est quand même intéressant parce que c'est le moment, le fameux trope de ils sont bourrés donc ils sont un peu plus vulnérables.
Ouais.
Et il y a quand même une discussion, par exemple ils trouvent un point commun qui est ils ont les mêmes moments préférés dans les mariages. Ouais. En fait. Et il y a un peu un moment où elle se rend compte, bah, en fait c'est que c'est un fake son acte de genre je suis un énorme cynique, bah en fait au fond pas tant que ça. Et du coup de fil en aiguille, beaucoup d'alcool, beaucoup de danse, beaucoup de chant,
ça pécho dans la voiture,
ça pécho dans la voiture. Mais là il nous reste environ je crois 45 minutes de film et tu te dis si les protagonistes principaux de la rom-com se sont déjà embrassés, tu sais que c'est pas fini. C'est jamais fini.
Il est vraiment long.
Oui, mais en même temps moi c'est un truc que j'aime bien dans le film, c'est que on en avait déjà parlé dans un autre épisode de rom-com, qui est souvent dans les rom-com, les protagonistes principaux s'embrassent à la fin et t'as jamais la suite de la relation. Alors que là, ils s'embrassent, tu pourrais te dire genre, et même le matin, c'est un peu awkward, je trouve ça réaliste, c'est en mode, qu'est-ce qui va se passer, mais là.
Bah c'est le matin du seum en fait, puisque enfin au début c'est le matin romantique où ils vont dans un petit diner prendre un petit déjeuner et tout, et en fait la serveuse du diner dit ah mais vous êtes la fille de l'article. Alors déjà qui fait ça?
Mais parce qu'en fait c'est l'énorme, visiblement c'est le journal que tout le monde lit le dimanche matin, enfin je sais
n'importe
pas
quoi. Et en fait il s'avère que la rédactrice en chef de Kevin a publié l'article sans son consentement.
Oui, alors c'est ce que c'est ça, attention petite parenthèse qu'on n'avait pas raconté, mais en fait la rédactrice principale lui avait dit, la rédactrice en chef pardon, du journal lui a dit ton article est bien, je publie. Il a dit mais attends, je sens qu'en fait il y a plus dans cette histoire, parce qu'en fait il rend compte qu'en fait il apprécie Jane et du coup Jane, et du coup il veut aller lui dire, et du coup en fait il veut lui parler, mais trop tard, l'article est publié, et du coup elle, c'est horrible pour elle, elle se sent,
ça c'est horrible par contre. Vrai.
Mais moi je me demandais, mais c'est légal cette histoire genre de publier les photos de quelqu'un sans son consentement dans
non,
un journal?
Non, c'est 2008.
Oui c'est vrai. Mais bon, là on a une petite trope que personnellement ici on n'aime pas beaucoup dans les rom-com, qui est la trope de la gifle.
Oui, arrêtez de vous frapper.
Voilà, c'est pas parce que c'est une meuf qui gifle le mec que c'est ok en fait. Non. Enfin, non.
Donc elle le gifle, elle s'en va, lololol. En fait, tiens, j'ai écrit peut-on arrêter le cliché de les hommes haïssent le mariage? Visiblement, non. Également, elle va se fighter avec sa sœur en fait, parce que quand elle rentre chez elle, sa sœur est en train de lire l'article.
Ouais. Et dans l'article, Tess est mentionnée comme.
Enfin, c'est Bridezilla en
anglais. Voilà, comme la Godzilla, la Marie Godzilla, ouais. qui est insupportable. Et vraiment, dans ces moments, je suis là, mais Tess, comment tu pardonnes ce personnage? Elle est insupportable. Enfin, sa sœur, elle s'est affreuse. Fait humilier publiquement dans le journal. Et Tess, elle est là. T'as vu ce qu'ils ont fait? Comment t'as osé me faire ça et tout?
Alors, c'est grave pas sa faute. Enfin, c'est pas parce qu'elle le. Enfin, bon, ça n'a aucun sens. Donc, elle se dispute, l'autre, elle rentre chez papa, gna. Et du coup. Elle lui dit en gros, pour te pardonner, je vais te demander à mon mariage de lire un texte que moi j'ai écrit. Genre comme ça, je suis sûre que tu diras pas des choses affreuses.
Oui.
Mais genre c'est ta sœur. Enfin, à quel moment tu fais ça?
Et en plus, ce qui est horrible, c'est celle là. Bon, j'ai choisi de te pardonner. Alors t'as mis pardonner de quoi? Enfin, elle était même pas au courant de cet article. Et là, c'est surtout la scène qu'on appelle le breaking point, où en fait Jane vraiment pète un câble. la robe de mariée. Avez-vous suivi en fait du coup on a le père a donné l'ancienne robe de la mère de mariée à Tess et Tess la en plus quand elle la reçoit dit à Jane tu pourras la voir après et en fait comment tu veux qu'elle l'apprête parce que tu la découpes en fait parce qu'elle aime pas la robe en fait. Et du coup
elle la refait quoi enfin elle la remodèle.
Et là, vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
C'est trop. Du coup, bah Jane, comme c'est une adulte mature, elle fomente une petite revanche, qui est tout aussi dégueulasse que ce que sa sœur fait. Donc au final, ça s'équilibre.
Alors, non, mais cette scène est clairement horrible, et c'est le moment où en fait Jane décide de ne plus être la troisième roue.
Ouais.
Mais elle a quand même. Alors c'est horrible, mais rappelons quand même qu'en fait elle dit à Tess, tu dois le dire à George, et si tu le fais pas, je vais lui dire. Bon, le problème c'est comment elle le dit à George et quand elle se rend compte que du coup Tess n'a pas du tout envie de dire la vérité à George.
Son futur mari finalement.
Voilà.
Elle fait ce qu'on faisait en 2008 au mariage, c'est-à-dire un PowerPoint.
Après, je te rappelle qu'elle lit exactement le texte que Tess lui a dit. Tess avait juste pas précisé les photos.
C'est les images du PowerPoint qui en fait du coup montrent Tess en train de manger de la viande, montrent Tess en train d'avoir peur de leur chien. Quand elles étaient ados plus ou moins et en fait du coup bah c'est tout le contraire de ce qu'elle a dit à George qui je le rappelle a un superbe bouvier bernois et donc elle a dit mais moi j'adore les chiens mais moi je suis végane comme toi mais moi j'adore le sport et en fait
Et en plus ça c'est vrai qu'elle est... moi je trouve qu'elle est assez nauséabonde parce qu'il y a beaucoup de blagues sur le fait que Tess quand elle était jeune bah, en fait elle couchait avec plein de mecs à l'université alors que George lui l'avait fait des grandes études alors que genre bah, ça c'est pas un problème c'est ça que t'as envie de faire après en effet le problème c'est qu'elle elle a menti à George en mode de quoi était fait sa vie
le portrait de la femme est affreux quoi.
Mais en fait là en fait clairement Jane essaie de s'émanciper de son truc de troisième roue mais le fait n'importe comment et j'aime bien cette scène où du coup sa meilleure amie lui parle sa meilleure amie qu'on a présentée vraiment comme une fille assez désagréable assez bitchy qui aurait pas de problème elle dit écoute ouais non je vais pas te mentir c'était hyper rigolo à voir mais peut-être que ça va trop loin. Ouais. Et elle dit cette phrase que j'aime bien qui est si c'était la bonne chose à faire, je pense que tu te sentirais mieux. Parce qu'en fait, Jane se sent comme une sous-merde.
Ouais, comme une personne qui a ruiné le mariage de sa sœur.
C'était. Attends, rappelons, c'est pas le mariage, c'était la cérémonie pré-mariage.
C'était la veille, enfin, c'est ce qu'on appelle le dîner de répétition. Mais vu que, en fait, ce qui va se passer, c'est que le mariage est annulé puisque George va rompre les
fiançailles. Ouais.
Voilà.
On a quand même un petit moment avant qu'on sache que tout s'est cassé la gueule et que le mariage a été annulé. C'est on a les retrouvailles entre guillemets avec Kevin. Kevin qui voulait s'excuser auprès de Jane depuis quelques temps mais qui n'arrive pas à la joindre et qui en fait est venu à ce dîner, qui a tout vu et qui lui dit en fait en quelque sorte. Enfin c'est pas qu'il la félicite mais il lui dit bah ok t'aurais peut-être pas dû faire ça mais moi je suis contente parce que pour la première fois de ta vie t'as dit non, tu t'es bougé, tu t'es sortie et tout. Et il y a un petit moment, une petite trope du moment de déclaration où il dit moi je pense que tu. Il dit pas genre je t'aime, il dit je pense que tu mérites qu'on prenne soin de toi, etc. Et du coup c'est et il lui offre un BlackBerry à l'époque 2008 c'était le top de l'organisation pour remplacer son agenda de mamie.
Son philofax. Mais après je trouve que la scène après avec le BlackBerry est très mignonne. Ouais. Ça marche bien. Mais donc va y avoir aussi une réconciliation sœur puisque elles vont se réconcilier.
Je n'aime pas. Ouais, alors ça je veux dire j'aime pas du tout cette scène. Je trouve que cette scène ne marche pas du tout en fait parce que c'est un moment où ils essaient d'humaniser le personnage de Tess. Bon, en gros, le père essaie de les rabibocher, de les mettre dans la même pièce et qu'elles discutent. Et c'est le moment où Tess est là. Mais Jane, moi j'ai menti à George parce que je voulais essayer d'être comme toi. Enfin, c'est. Ouais, non mais moi je trouve qu'on voit ce qu'ils essaient de faire à mi-kilomètre. C'est qu'ils essaient d'humaniser Tess et de lui faire comprendre un truc qui, je pense, pourrait être vrai dans ce genre de situation que Tess, c'est pas si facile sa vie, c'est pas parce qu'en fait t'es magnifique et tout, que ta vie c'est toujours bien et tout. Mais. Ça marche pas. En fait, c'est genre, elle était tellement insupportable tout le film, ça marche pas.
Ça marche pas. Et surtout, elle lui dit, je sais que toi, de toute manière, tu veux être comme maman et tu veux dans le futur être comme. Mais genre, c'est le seul but du personnage féminin, quoi, c'est d'être comme sa daronne. Enfin, non, moi, je suis désolée. Il y a toujours des clichés.
Ah ouais,
là,
non,
je suis Everglade for the clichés.
Non, mais c'est vrai que là, niveau trop.
Non, là, cette scène-là en particulier, je trouve.
Oui, non, merci, d'accord. Non, mais je trouve que cette scène ne marche pas. Après, on enchaîne avec une scène qui est aussi gros sabot, mais que je trouve, d'un point de vue métaphore, montre bien le message qu'on veut. Ouais. Qui est, elle rentre chez elle et elle jette toutes les robes de demoiselle d'honneur qu'elle avait avant.
D'ailleurs, dans la cohérence pour la fin, Moi, j'ai une question là-dessus.
Mais parce que les autres, je crois qu'elles portaient...
Ah, on verra. Mais enfin, on va pas tout de suite aller à la fin. Mais pour moi, il y a un manque de cohérence.
Oui. Bon, je sais pas si elle les jette ou si elle les met juste dans des gros sacs poubelles qu'elle range dans des placards cachés, peut-être.
Peut-être.
Mais du coup, et c'est pour moi... Enfin, c'est intéressant cette scène parce que, bon, encore une fois, gros sabot. Mais c'est le symbole de... Elle en a marre d'être la troisième roue.
Ouais, genre, elle prend sa vie en main, genre. Elle prend tellement sa vie en main que d'ailleurs, un jour, je l'appelle et lui dit ah, j'ai un... Je sais pas ce que c'est un business dinner ou un truc comme
oui,
ça.
Oui, il lui dit j'ai besoin d'un date.
Il lui dit voilà, j'ai besoin d'une cavalière et du coup, elle dit oui. Bah alors, par contre, bouffonne. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. C'est le mec qui vient de rompre son fiançailles avec ta sœur et tu dis oui, bien sûr.
Non. Bah, clairement, à ce moment-là, ses sentiments sont assez flous. Et là, il y a une scène où, en fait, moi, j'aime bien quand même ce moment. Parce que, bon, encore une fois, je déteste le personnage de Georges. Parce que, en fait, il lui dit oh, merci d'être venu, dernière minute. Et il dit je l'ai noté.
C'est ça que j'aime bien.
Tu ne dis jamais non, c'est ce que j'adore.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est un truc qui est récurrent, on n'en a pas parlé, mais il y a une scène où elle parle beaucoup avec Kevin, où il dit mais faut que tu apprennes à dire non. Et au moment où il lui dit ça, elle le regarde en mode ah. Ok, en fait, ce que t'aimes chez moi, c'est que je sois littéralement la troisième. Enfin, genre, que je sois une bonne niche en fait pour toi. Du coup, elle dit je démissionne. Je suis là, yes queen. Et elle dit.
En fait,
elle lui dit mais j'étais amoureuse de toi toutes ces années, ouais. Je sais pas quoi. Là, il l'embrasse. Moi, je suis là, mais. Enfin, t'allais te marier avec Tess il y a genre 2 heures.
En non, fait. Ouais, y a trop. Enfin.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'embrassent et que là, elle fait. Ah non.
Y a pas l'étincelle,
ils font. Ouais, moi non plus. Il fait, on réessaie. Ouais, on réessaie. Ils s'embrassent. Après, ils sont là. Non. Et t'es
ça
là,
n'a
genre.
Aucun sens, genre.
Ok. Enfin, mais du coup, c'est le.
Ce qui se passe dans cette scène, c'est qu'il y a son Blackberry qui se met à sonner. Et c'est encore Elton John. C'est Benny and the Jets, la musique
oui,
de la sonnerie. Et elle dit, oh, c'est Kevin que j'aime depuis tous ces temps.
Non, mais genre, ça l'a fait rire. En fait, parce que autant. Kevin, c'est quand même un connard pour plein de raisons, et c'est un mec cynique, chiant. Moi, j'aime pas vraiment un genre comme ça.
Mais
je le préfère clairement à George, en fait.
Ah oui, non, mais alors là, il y a pas photo. Non, clairement, très clairement.
Et là, on a un énième trope. On est quasiment à la fin du film, mais on en veut encore le trope de.
Moi, j'en veux plus.
Elle est là, stop, pitié. Le trope de la course poursuite entre guillemets ou enfin la course poursuite. Oula, je suis dans un James Bond. Non, mais le trope de. En fait, elle veut rattraper
elle court après, ouais.
Et elle court après Kevin en mode. Il faut que je le trouve. Il faut que je dise que je l'aime.
Qui est sur un bateau.
Il est sur un bateau parce qu'il est en train de couvrir son dernier match. Enfin. Pardon, je me suis embrouillée, mais parce qu'il est journaliste et du coup c'est son dernier truc parce qu'après il va être bougé. Parce que l'article qu'il a écrit sur Jane a eu un tel succès qu'en fait il va être bougé et devenir un super journaliste. Voilà.
Dans la vraie vie, il n'y a pas des levels hein, comme ça. Tu n'évolues pas en tant que Pokémon.
Non, mais surtout, c'est pas avec genre un bon article
non,
que je pense pas, ça serait trop bien. Mais du coup, elle saute dans le bateau à la dernière minute. Elle se casse la gueule d'ailleurs parce qu'on est dans une rom-com, attention, elle est maladroite. C'est le moment de la déclaration. Mais j'aime bien cette scène, je la trouve rigolote parce que genre elle trouve la mariée et elle dit à la mariée genre en fait j'ai besoin d'être et la mariée elle est en mode genre trop cool et tout, je vais
c'est
t'aider.
La bonne article.
Et surtout elle est en mode non mon dieu je vais t'aider et je trouve que c'est rigolo parce que le marié ce serait genre une journée pour toi et la mariée ouais. Elle est en mode genre vas-y fais ta déclaration ouais, et la mariée
ils inversent les rôles en plus.
J'adore, c'est la reine de drama queen parce qu'elle est là est-ce qu'on peut avoir un spot lumineux qui suit le mec dans la foule et oui ça échange, c'est la fille qui fait la déclaration.
Ouais, donc elle lui dit mais je t'aime machin et en fait après ce qui est trop drôle c'est qu'elle s'en va et genre elle s'en va en mode elle va quitter le bateau, j'étais là mais ma soeur normalement tu fais pas ça et du coup il est obligé de la rattraper dans la foule, il fait genre non mais attends
et en plus surtout c'est dans un bateau, tu vas aller où,
elle va rejoindre Jack,
j'allais dire le Titanic,
elle va rejoindre Jack. Et bon bah voilà, ils s'aiment, ils s'embrassent et cut sur la dernière scène qui alors là
un an plus tard. La scène du mariage, c'est enfin le mariage de Jane. Elle n'est plus la troisième roue, c'est elle l'héroïne du jour.
Elle est son propre carrosse.
Là, on a plein de petits moments où en fait, on a Tess qui, en fait, est sa demoiselle d'honneur.
Ouais.
Et re-rencontre du coup George qui est quand même invité au mariage. J'ai envie de te dire,
mais trop bizarre. Okay, lui,
pourquoi et d'ailleurs, il se représente. Enfin, genre
ouais,
cette scène est un peu
si
mignonne.
Enfin,
comme s'ils se connaissaient pas et tu te dis bon, à mon avis, ça va repartir pour eux deux parce que ce qu'ils ressentent, c'était vrai au fond, peu importe les mensonges. Quel enfer. Non, mais ça, quel enfer. Mais du coup, c'est quand même mignon parce que du coup, Jane a son beau moment où elle remonte l'allée, où Kevin la regarde avec les yeux en cœur, en mode oh my god, voilà. Et surtout, elle le redit en voix off où c'est un truc qu'elle avait dit déjà dans le film. Oui, j'ai été la troisième roue du carrosse de tout le monde. Enfin, elle dit pas ça comme ça dans le film, mais voilà. Mais un jour, les gens seront là pour moi. Et alors, elle, elle a pas une troisième roue à son carrosse, elle a 27 roues.
Puisque, plot twist, elle avait pas jeté les 27 robes, puisque chacune de ses demoiselles d'honneur fait sa taille, ce qui est incroyable. Et donc, en fait, c'est les mariées qui l'ont eu en demoiselle d'honneur, qui sont habillées chacune dans une robe qui représente leur mariage. Donc voilà, il y a personne qui se ressemble à son mariage.
Bah peut-être qu'ils ont refait des robes basées sur les modèles qui avaient été. Bon écoutez, c'est une rom-com, on va arrêter, mais bon voilà. C'est rigolo, c'est oh mon dieu, tout le monde porte les robes et elle est heureuse, elle finit, machin, ils s'aiment. Et moi je note sur mon truc. Quand même, j'ai envie de me marier maintenant. Genre, non, ça a marché sur moi.
Non, en vrai, à la fin, j'avais grand envie d'organiser un gros mariage.
Bah franchement, moi je me demande comment. Parce qu'elle est quand même censée être jeune, je crois qu'elle a une trentaine d'années. Ouais. 27 amis qui se sont mariés en cet espace, genre comment tu fais?
J'ai l'impression qu'il y a des connaissances aussi, genre il y a la secrétaire
du ouais. Mais en tout cas, moi j'ai trop envie d'aller à un mariage, hein, si vous voulez. Ouais,
invitez-nous!
Invitez-nous et après on fait de l'animation! Bouquez-nous, on est un duo!
Le Club Med!
Les robes elles sont bien, hein. Et puis c'est super, vous pourrez les raccourcir si vous voulez les remettre. Tu as absolument raison.
Un petit sourire?
Je suis assez d'accord avec Clara pour dire quand même qu'il y a beaucoup de défauts dans ce film, que entre guillemets j'excuse parce que c'est un film des années 2000, même si 2008 c'est légèrement tard, hein. Mais avant 2010, voilà, manque de représentation, tout le monde est hétéro, tout le monde est blanc, il y a beaucoup de, oui voilà, tout le monde est mince, enfin bon. Mais c'est malheureusement à l'époque, c'était, je suis beaucoup plus critique des rom-coms qui aujourd'hui sont encore comme que les rom-coms de l'époque, où c'est horrible à dire, mais c'était ça pour, et d'ailleurs pas que le rom-com, mais quasiment tous les films avaient le même souci. En ce qui concerne le trope, je trouve vraiment que c'est un film qui en a plein, c'est bourré, c'est genre vraiment, ils ont pris tous les ingrédients connus des rom-coms, ils les ont mis dans un mixeur, et je trouve que bizarrement je trouve quand même que ça marche, alors que d'habitude ça, c'est hyper délicat d'utiliser autant de tropes, parce que ça peut vraiment faire lourd, et je trouve que ça arrive quand même à marcher. Je pense que l'originalité de l'histoire des 27 robes en fait est rigolote, la scène où elle les essaie toutes, ça marche. Et le trope de la troisième roue du carrosse, on le voit dans plein d'airs de la vie de Jane. Et en fait, je pense aussi que c'est un film qui est designé pour que les personnes qui regardent le film se sentent à la place de Jane. Ça me fait penser un peu à ce qu'on disait avec Bridget Jones. Pourquoi est-ce que quand j'étais en troisième et que j'ai vu 27 robes, je me suis identifiée à Jane? Mais parce qu'en fait, ils font tout pour te faire croire que dans ta vie, t'es une Jane. Parce que dans la société actuelle dans laquelle on est, toutes les femmes, on pense qu'on est des Jane et pas des Tess, parce que on n'est pas si, on pense qu'on n'est pas très jolie, on pense qu'on n'est pas assez mince, on pense qu'on n'est pas blabla, que les garçons s'intéressent pas à nous, etc., etc. Et du coup, je trouve que tu crées une espèce d'empathie avec Jane et tu la vois quand même se sortir de son cocon. Alors oui, elle le fait pas très bien, mais en même temps, je trouve qu'on voit les personnages ont un peu, tous les personnages qui font des trucs nuls ont un peu un retour de karma à un moment, ce qui n'arrive pas toujours. Donc je trouve quand même que globalement ça marche, et je trouve, moi c'est un film que je prends du plaisir à voir, voilà, mais je pense aussi qu'il y a un aspect nostalgique où je l'ai vu quand j'étais jeune et impressionnable et je l'aimais bien, voilà.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça fonctionne avec le trope, il marche très bien, on a de la peine pour cette meuf là en fait, mais je trouve que le seul problème dans cette dynamique là où ça marche pas, c'est qu'en fait la reine n'est pas crédible du tout. C'est moi mon problème, c'est tout ce qui entoure Jane n'est pas crédible. Genre dans le sens où des meufs que t'as rencontrées 2-3 fois qui te demandent d'être ta demoiselle d'honneur, pour moi j'y crois pas. Ça c'est une rom-com, et donc on pardonne et tout. Mais il y a eu ça, il y a tout le truc de tout le monde est parfait, tout le monde est super beau, tout le monde est super lisse, moi j'y crois plus du tout. Mais ça c'est le problème de voir des films qui ont été réalisés à l'époque et...
ça a mal vieilli en fait.
Non, ça a très mal vieilli. Mais en fait une meuf bombe comme ça, c'est jamais la troisième roue du carrosse partout. Même si elle a une personnalité qui s'efface, etc. En 2008, la société était encore plus sexiste et basée sur la beauté et l'apparence que maintenant. Et en fait, je trouve que ça fonctionne pas dans le sens où c'est toujours comme ça. C'est un peu comme dans les films où ils essayent de mettre une geek. En fait, ils mettent Megan Fox avec des lunettes, tu vois. Par exemple, Vera dans Scooby-Doo. Moi, j'étais love de Vera, j'étais pas love de Daphné. Alors que Vera dans les dessins animés, t'es pas love de Vera parce que c'est une nerd, qu'elle est toute petite, elle est un peu. En plus, elle est un peu déformée et tout. Ils ont mis, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice de Freaks and Geeks qui est magnifique, on verra dans les films, ils ont juste collé des lunettes et hop, non ça marche pas comme ça en fait. Donc voilà, moi je trouve que ça fonctionne dans le film et tout, mais si tu regardes un peu plus poussé, c'est improbable. Et,
bon, oui, après, non, mais voilà. C'est vrai. C'est, enfin, en fait, c'est ce qu'on dit. En fait, ça a mal, ça, ça a très pas mal très bien vieilli. Il y a des moments sexistes qui sont très désagréables. Rien que le fait, moi, je trouve aussi un truc que j'ai, quand j'en en a pas parlé pendant le podcast, mais Kevin au début la harcèle quand même assez pour qu'elle aille reboire un verre. C'est mis sous cette espèce de prisme en mode genre c'est quirky et tout, mais en fait, genre non, c'est pas quirky, c'est creepy de ouf.
We don't like it.
Voilà.
Mais du coup, on peut peut-être vous recommander des histoires d'amour qui nous ont plu en ce moment.
Récemment. Bah vas-y, je te laisse commencer parce que je pense que t'as besoin de parler d'un truc que t'as aimé récemment. Pour changer.
Récemment, j'ai pu regarder... en fait, j'ai découvert la série Scam il y a pas longtemps. Donc c'est une série norvégienne qui est une série pour ados. Faut savoir que j'adore les programmes pour ados. Genre c'est vraiment mon point faible. Genre vraiment les séries des années 2090, tout ça. Et en fait, c'est une série qui est très moderne, qui est basée donc sur une série norvégienne. Et maintenant, il y en a dans tous les pays d'Europe. Et c'est sur l'adolescence. C'est genre chaque saison a son thème. Donc il y a l'homosexualité, l'addiction, la religion, etc. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et récemment, ils ont fait une storyline avec deux meufs pour la première fois. Il y a d'ailleurs un personnage trans dans cette saison. Donc en plus, ils ont coché toutes mes cases pour moi. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que ça parle de la toxicité qu'une personne peut avoir sur toi, notamment en couple, etc. Donc sur deux adolescentes en plus, dont l'une qui est fait de l'hôpital psychiatrique, etc. Enfin, c'est vachement sombre pour une série pour ados, et en même temps je trouve que c'est hyper important d'avoir ce genre de relation là, montrer à des enfants et leur montrer qu'en fait une relation ça sert pas à te sauver et qu'il faut se sauver soi-même avec d'autres choses autour et qu'on a besoin d'accompagnement médical parfois et que c'est pas grave mais que ça ne doit pas t'empêcher de pouvoir développer une relation amoureuse avec quelqu'un. Donc voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Scam saison 6 si vous voulez regarder ça. Voilà.
Bah dans la série justement histoire d'amour où il faut se sauver soi-même avant d'être aimé et de s'aimer et blabla. Récemment, alors je suis une grande fan des films du studio Ghibli et l'un de mes préféré c'est le château ambulant et en fait j'ai découvert récemment durant le confinement que le château ambulant était basé sur un livre je ne savais pas du tout qui est écrit en plus par une autrice c'est du Pays de Galles donc ça s'appelle en anglais comme le film le château ambulant en anglais c'est-à-dire Howl's Moving Castle et j'ai plus le nom de l'autrice sous la main, je suis débile, je l'ai pas noté. Désolée, tapez le château ambulant livre dans Google. Et en fait, ça raconte à peu près la même histoire que dans le film. Il y a quand même des côtés différents. Et donc, l'histoire d'amour entre Sophie et Aoru. Mais ce qui est beaucoup, en fait, sur Sophie, comment est-ce qu'elle se sort de sa malédiction quand on l'a transformée en vieille femme. Et le personnage de Aoru, qui est une tête à claque, mais en même temps qui est attachant. Et c'est l'histoire d'amour. Et l'histoire d'amour est vraiment en fond dans le livre. Plus en fond, je trouve, que dans le film. Et c'est vraiment super joli, c'est un peu de la... Enfin, c'est un peu un monde fantaisiste si vous aimez ça. En tout cas, si vous avez aimé le film, je vous recommande vraiment le livre. C'était vraiment super agréable à lire. Et vraiment, leur histoire d'amour, je la trouve assez drôle, touchante. Voilà, c'est ma recommandation.
Des petites histoires d'amour. Vraiment le meilleur aspect de cette rom-com. C'est ce que vous avez dans les oreilles là, à ce moment-là, vraiment. Cette chanson est incroyable. Allez voir Rocketman si vous l'avez pas vu.
C'est le moment où je vais me faire tuer par Clara parce que je veux dire, je savais pas que c'était une chanson d'Elton John.
C'est vrai.
Après, je connais pas grand-chose. J'ai vu Rocketman par contre, mais je ne savais pas que Benny and the Jets c'était de. Pour moi, Benny and the Jets c'est la chanson de 27 ans. Voilà, je suis désolée.
Et sur ce fait très culturel, on vous remercie d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui.
Oui, on vous envoie de l'amour. On pense à vous tous. Et à très vite pour un nouvel épisode
de Rom-com finalement.
Voilà, de notre podcast.
N'oubliez pas qu'on est présente sur Instagram et sur Twitter. Si vous nous découvrez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
Oui,
mais pas sur TikTok encore.
Oh my god, c'est un enfer. Voilà, n'hésitez pas à lâcher des 5 étoiles sur iTunes. Est-ce qu'on commence à faire les gens comme ça?
On peut essayer de faire ça en fait.
Si vous aimez le podcast,
écoutez-nous bien. Si vous nous kiffez. Pourquoi ne pas nous le dire? iTunes répertorie les podcasts dans son classement et en fait on est dans le classement là depuis ça va bientôt faire un mois consécutif, ce qui est ouf pour un podcast qui n'est pas du tout produit parce que généralement ce sont des podcasts qui ont des productions derrière du matos professionnel. Nous je vous laisse même pas imaginer notre setup, c'est un carton de DVD de Buffy de Desperate Housewives qui tient les micros. Et du coup, on est très fiers de ça. Et en fait, on s'est dit que du coup, sans vergogne, on peut vous demander de nous mettre 5 petites étoiles. Sachez que vos votes, entre guillemets, ne sont comptabilisés que si vous laissez un petit commentaire.
Ah ouais ?
Donc, si vous nous laissez un petit commentaire, c'est très agréable. C'est les votes et les écoutes. Hein. Mais au niveau du rating, en tout cas, les commentaires sont surtout pris en compte. Donc,
mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste nous envoyer de l'amour en télépathie et on peut le recevoir
aussi, hein, bien sûr.
Branché comme ça, on est
notre secrétaire fera le tri. C'est Oscar, c'est mon chat. Je crois qu'on a tout dit.
Bah oui, bah au revoir Clara.
Au revoir Flore. Baby and the Jets.